todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Jednostka ma prawo do życia, wolności i do pewności swojej osobowości.
ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Rechte geboren. Sie zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Bonjour Adeline.
Bonjour Jean-Marie.
Eh bien, ravi de retrouver nos auditeurs pour cette émission d'Amnesty International de février, donc qui va faire un petit panorama des droits humains, de ces violations, mais aussi des avancées. Et puis, on vous annoncera une réjouissance, c'est le loto d'Amnesty auquel on vous invitera tout à l'heure à participer. Voilà, alors pour l'instant, peut-être Adeline, on voudrait commencer par une très mauvaise nouvelle. C'est une journaliste, vous en avez peut-être entendu parler, photographe surtout, qui malheureusement pour elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, au Burkina Faso, et elle était en mission pour notre organisation.
Absolument, donc il s'agit de Leïla Alaoui, je pense que vous en avez entendu parler, c'est une photographe franco-marocaine qui effectivement était partie à Ouagadougou en mission pour Amnesty. Alors Leïla, on a un peu envie aujourd'hui de lui rendre hommage. C'était une militante en fait qui utilisait un langage artistique pour dénoncer, pour montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'était surtout une très grande photographe hein, parce que ça fait très longtemps qu'elle expose. Elle a été aux Rencontres d'Arles en 2011. Elle avait fait une très belle exposition à la Biennale de Marrakech l'année d'après. Elle a exposé à New York un festival photo. Elle était au Musée d'art contemporain en Argentine, à Buenos Aires, en 2015. Et elle était d'ailleurs, le hasard fait parfois mal ou bien les choses, on ne sait pas, à la Maison européenne de la photo à Paris. Elle est exposée jusqu'à fin janvier.
Ça veut dire qu'il y avait une reconnaissance de
ses pairs
internationales.
Absolument, il y avait une reconnaissance de son travail. C'était,
hein.
C'était quelqu'un qui faisait des photos en prenant toujours beaucoup de... Voilà, beaucoup de précautions, elle était très, très soucieuse des gens et elle avait fait une très belle exposition qui s'appelait les Marocains, où elle s'était contentée, entre guillemets, de photographier les gens, de leur demander juste de venir, un peu comme dans un studio photo. Et d'ailleurs, on peut voir cette exposition sur le net, en tapant son nom.
J'ai vu quelques photos, très très belles. Hein,
elles sont vraiment magnifiques. C'était donc une jeune femme pleine de talent, pleine d'avenir, qui avait 33 ans et qui effectivement, comme tu disais Jean-Marie, s'est trouvée... au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça fait partie des victimes du terrorisme.
À Ouagadougou, hein, c'est ça.
À Ouagadougou,
au cours
absolument.
De l'explosion de l'hôtel.
Au cours de l'explosion de l'hôtel. Ouais. Donc, on voulait vous lire un très bel hommage que lui a rendu Maï Binebine, qui est un auteur, un de ses collègues, qui était peintre, qui est un peintre et un sculpteur de talent, et qui était très proche de Leïla Alaoui. Et voilà, donc il a écrit le lendemain de sa disparition. Croix de bois, croix de fer. Elle disait, je suis si fatiguée. Bientôt, je lèverai le pied. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Après Ouaga, c'est sûr, j'arrête. D'ailleurs, à Beyrouth, Nabil m'attend. Il m'a beaucoup attendu ces dernières années. Il a été très patient et j'en ai honte. J'irai le retrouver et on fera un enfant. Peut-être deux. Un garçon et une fille. Il en a tellement envie et je me sens fin prête pour cette nouvelle aventure. À 33 ans, faut pas traîner. C'est le moment de construire du solide. Nous avons créé la station, un bel espace dédié à l'art, où tu viendras exposer un jour. N'est-ce pas, Maï ? Beyrouth te plaira, j'en suis sûre. La vie y est riche, intense et chargée d'électricité. Les gens y vivent à tombeau ouvert, comme si une catastrophe allait survenir à tout moment. D'ailleurs, ça devient partout pareil. les jolis endroits de la planète sont de moins en moins sûrs. On n'est à l'abri nulle part. Mais après Ouagadougou, je déposerai mon bâton de pèlerin, mon appareil photo, et ce ballot qui devient lourd à porter. Je planterai ma tente sous un cèdre, et je serrerai très fort mon homme dans les bras. Vrai de vrai, cette fois-ci, je ne me rétracterai pas. Croix de bois, croix de fer. J'écoutais Leïla et je m'entendais mentir au mien, ceux auxquels j'avais promis du temps que j'étais incapable d'offrir. Le temps des artistes est dans l'indivision, il appartient un peu à tout le monde. Elle, elle faisait un livre sur les artistes. J'ai vu alors cette curieuse créature lumineuse grimper sur des chaises, des tables, se contorsionner pour avoir la meilleure prise de vue. Elle me fixait avec l'œil vorace de son objectif. Leïla, elle ne sourit pas quand elle travaille, contrairement au reste de la journée. C'est là que nos fantômes se sont vus. Ils se sont reconnus comme des jumeaux longtemps séparés. Non, Leïla, je ne te crois plus. Quand tu suivais les subsahariens dans les forêts obscures près de Tanger, je n'étais pas tranquille. Tu disais, je vais faire de leur détresse une œuvre d'art. Ils ne seront plus des chiffres ni d'effroyables statistiques. Je leur rendrai leur visage, leur âme et leur dignité. Après l'exposition Crossing, promis, je me range. Nabil me rejoindra à Marrakech et on prendra le temps de souffler. On fera de beaux projets. Cette fois-ci, c'est vrai, croix de bois, croix de fer. Mais qu'es-tu allé fabriquer à Ouagadougou, ma tendre amie? Pourquoi ce jour-là, précisément? Redonner le sourire aux petites filles violées? Celles qu'on fouette parce qu'elles n'avaient qu'à se couvrir davantage pour ne pas tenter les mâles? Consoler les femmes battues, les répudier, les moins que rien? Tu voulais changer à toi seul un entrelac d'ignorance, d'ignominie, de bêtises. Mais jusqu'à quand allais-tu continuer à traîner dans les sombres sous-sols de l'humaine condition? Tu avais promis, je t'avais cru. Croix de bois, croix de fer. Non, pour rien au monde, Leïla, même si tu mentais, pour rien au monde, je ne voudrais que tu ailles en enfer. Voilà la lettre hommage de Maï Bin Ebin pour cette jeune femme qui restera, j'espère, dans notre mémoire, qui était une personne magnifique et qui malheureusement a disparu il y a peu de temps dans cet attentat.
Merci Adeline. On continue avec, en restant en Afrique, mais un petit peu plus au sud, où toujours il se passe des événements dramatiques. C'est un pays dont on vous a déjà parlé, qui est voisin du Rwanda, qui s'appelle le Burundi.
Le Burundi,
qui a d'ailleurs les mêmes ethnies, hein, les Hutus et les Tutsis. Alors le problème au Burundi, si vous n'êtes pas au courant, je vous le rappelle en deux mots, c'est que le président Nkurunziza, je crois il s'appelle, postule de façon anticonstitutionnelle pour un troisième mandat, hein, comme beaucoup de dictateurs.
Qui n'arrivent pas à partir, en fait.
Pas
voilà.
Partir, c'est tellement bien le pouvoir, n'est-ce pas? Voilà, et donc depuis un an maintenant, il y a des massacres, et parce que l'opposition s'est fait entendre et ne veut pas qu'il se représente, parce qu'ils savent que s'il se représente, ben, il va s'élire lui-même, il va être élu, hein, en truquant les élections, évidemment. Et donc, il y a des massacres périodiquement. La communauté internationale a d'autres chats à fouetter avec la Syrie, la Libye, etc. Et elle ferme un peu les yeux, il faut le dire. Et le nouveau, c'est que vous pouvez aller sur le site d'Amnesty et voir des images satellites de fosses communes au Burundi. Alors c'est un des avantages de la technologie moderne, hein, notamment les images satellites qui grossissent énormément. Et donc, il y a quelques temps, donc, d'après de nouvelles images édifiantes, plus des vidéos et des récits de témoins analysés par Amnesty International, des dizaines de personnes tuées par les forces de sécurité du Burundi en décembre, donc auraient été enterrées dans les fosses communes. Donc on dit auraient été enterrées parce que pour l'instant elles n'ont pas été déterrées, donc Amnesty utilise dans ces cas-là toujours le conditionnel. Donc des images et des vidéos, avant, après, montrent 5 charniers présumés dans la région de Buringa, en périphérie de Bujumbura. Bujumbura, c'est la capitale. Sur ces images, qui datent de fin décembre et début janvier, c'est-à-dire il y a un mois, on peut voir des sites où la terre est retournée, ce qui coïncide avec les déclarations des témoins. Ceux-ci ont raconté à Amnesty International que les fosses ont été creusées dans l'après-midi du 11 décembre, journée la plus meurtrière de la crise qui secoue le Burundi. Ces images pointent du doigt une tentative délibérée des autorités de dissimuler l'ampleur des homicides perpétrés par leurs forces de sécurité et d'empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Voilà ce qu'a déclaré Mutoni Vanyeki, directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est. Des chercheurs d'Amnesty se trouvaient justement à Bujumbura au moment des homicides et se sont rendus le lendemain matin dans les quartiers touchés, notamment à Nyakabiga. Selon les habitants, les cadavres d'au moins 21 hommes le jonchaient les rues, les maisons et les caniveaux de drainage. Les chercheurs ont retrouvé de grandes mares de sang à l'endroit où certaines victimes avaient été tuées, mais les corps avaient été enlevés. D'après les témoins, la police et des agents locaux ont ratissé ce quartier et d'autres pour récupérer les corps des victimes et les emmener dans des lieux tenus secrets. La mère d'un adolescent de 15 ans, tué d'une balle dans la tête alors qu'il s'enfuyait en courant pour se mettre à l'abri dans une remise, a déclaré à Amnesty que des employés de la mairie étaient venus récupérer la dépouille de son fils en pick-up. Ces hommes ont refusé de lui dire où ils emmenaient le corps. « Je ne sais pas où il se trouve, ni s'il a été enterré », a-t-elle déclaré. Alors, outre le site de Bouringa, des informations crédibles font état de fosses communes où auraient été enterrées les victimes du 11 décembre, qui se trouveraient en divers endroits, notamment dans deux cimetières. Selon les sources locales, 25 corps ont été enterrés dans 5 fosses sur le site de Mpanda et 28 autres dans 4 fosses sur le site de Kanyosha. On ignore combien de cadavres pourraient se trouver dans d'autres lieux. Donc vous verrez sur Amnesty, il y a une carte interactive qui montre très bien cette terre remuée. Hein.
Oui, c'est suite au rapport justement...
D'Amnesty, voilà.
Voilà, c'est suite au rapport d'Amnesty. Exactement. Où d'habitude on n'a que le rapport en lecture, et là effectivement on peut avoir
là,
des photos.
Là on a des photos. Hein. Donc ce
images.
Rapport auquel tu fais allusion, il a été publié en décembre dernier par Amnesty, sous le titre « Mes enfants ont peur, aggravation de la crise des droits humains au Burundi ». D'où émerge quelques jours avant que les dirigeants africains ne se réunissent dans le cadre du sommet de l'Union africaine pour discuter du conflit au Burundi. Alors Mutoni Vanyeki, donc la chercheuse, dit « Les dirigeants africains réunis dans le cadre du sommet de l'Union africaine doivent exhorter le gouvernement du Burundi à permettre aux enquêteurs internationaux d'accéder à tous les charniers présumés, à mener sans délai une enquête indépendante et impartiale sur les homicides, et à expliquer pourquoi la plupart des familles n'ont pas pu récupérer ni inhumer leurs morts. Les familles ont besoin de savoir ce qui est arrivé à leurs proches et de pouvoir les enterrer dans la dignité. Ces charniers présumés doivent être sécurisés jusqu'à ce que de véritables enquêtes soient menées et les dépouilles retrouvées dans ces fosses doivent être exhumées afin de déterminer les causes de la mort. Alors si ces informations étaient avérées, donc il s'agirait de crimes contre l'humanité, hein, puisque là ce sont des civils qui ont été tués sans
Absolument.
Aucune raison particulière, hein, simplement parce qu'ils appartenaient à la mauvaise ethnie ou qu'ils avaient un peu manifesté. Hein. Voilà, une petite pause et on reprend.
Soñé de cada caricia fuera humildad el sueño que no despertaba de la vida.
Vous êtes toujours sur FM+, avec Amnesty International qui continue à vous présenter les informations donc, sur les droits humains.
Et cette fois-ci, on part en Israël.
En Israël, voilà, on va changer de continent. Donc, à propos d'Israël, donc, ben, l'État hébreu est en passe d'annexer plus de 150 hectares de terres agricoles dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. Une telle annexion, si elle est menée à bien, serait la plus importante depuis plusieurs années dans la zone. Voilà, c'est un communiqué de presse du 21 janvier dernier.
Et oui, parce qu'on rappelle qu'en Israël, effectivement, où on espère quand même qu'un jour la paix va finir par arriver.
Oui.
Voilà, bon. une des possibilités que cette paix arrive, c'est quand même qu'il y ait des que l'État, les gouvernements israéliens n'occupent pas de plus en plus les territoires.
Les territoires, voilà.
Voilà, donc cette annexion, cette colonisation et cette annexion de terres. Voilà, complique considérablement éventuel un jour processus de paix.
Oui, effectivement. Hein. Donc ça date du jeudi 21 janvier aussi, où le gouvernement israélien donc, a officialisé son intention d'annexer plus d'une centaine d'hectares de terres fertiles dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, dans une zone où sont déjà implantées des colonies de peuplement agricole. Conformément à une décision prise au niveau politique, nous sommes dans la phase finale avant que ces terres ne soient déclarées terres de l'État israélien, a déclaré à l'AFP le COGAT, c'est l'organisme du ministère de la Défense, chargé de coordonner les activités israéliennes dans les territoires palestiniens. La radio de l'armée avait annoncé le mercredi précédent que 154 hectares de terres cultivables seraient saisis près de la ville palestinienne de Jéricho. Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, s'est rendu sur place le même jour avec des journalistes et a accusé Israël de vol. « Ce que nous voyons ici, a-t-il déclaré, c'est le vol de 92% de l'eau, le vol de 92% des terres et le plus grand régime colonial. » Il a rejeté la dimension stratégique de cette vallée, invoquée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les États-Unis, dont l'ambassadeur en Israël a critiqué la politique de l'État hébreu dans les territoires palestiniens, ont réaffirmé qu'ils opposeraient à toute initiative participant à un accroissement des colonies. Marc Toner, porte-parole du département d'État, a déclaré « Nous pensons que cela est fondamentalement incompatible avec une solution à deux États et franchement, nous doutons de l'implication du gouvernement israélien dans une solution à deux États. » Une telle annexion, si elle est menée à bien, serait en effet la plus importante depuis des années dans la vallée du Jourdain, a déploré Agit Ofran, une responsable de l'ONG israélienne Anticolonisation, La Paix Maintenant. Alors par le passé, il faut rappeler que les autorités israéliennes avaient justifié de telles annexions en invoquant la législation permettant de s'approprier des terres palestiniennes en jachère depuis trop longtemps.
Oui, parce qu'alors il faut quand même préciser, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, qu'il y a une loi en Israël qui dit que si pendant 2 ans, une terre n'a pas été cultivée, elle revient automatiquement à l'État d'Israël. Ce qui est très pratique parce qu'avec la construction du mur, effectivement, il y a énormément de terres qui appartenaient aux Palestiniens et qui ne peuvent plus cultiver parce qu'ils ne peuvent plus y accéder. Ils sont empêchés d'y accéder. Ouais, donc au bout de 2 ans, automatiquement, ces terres passent au... C'est une stratégie indirecte pour prendre les terres.
Voilà. Et donc cette saisie de terre et plus largement la colonisation qui s'est poursuivie sans relâche sous les gouvernements israéliens de droite comme de gauche sont dénoncées par les Palestiniens et la communauté internationale comme rognant un futur État palestinien et compromettant toujours davantage la paix. Les ministres européens des Affaires étrangères avaient, eux, répété leur ferme opposition à la politique de colonisation d'Israël, aux démolitions de structures palestiniennes, y compris des projets financiers par l'Union européenne, et aux confiscations. Mais pour autant, les choses continuent.
Les choses continuent. Et alors, toujours dans le même registre, hein, de cette paix qui ne semble pas arriver, 2015 a été la pire année pour les journalistes palestiniens. L'année 2015 a été la pire année pour les journalistes palestiniens, affirme dimanche le Centre de Gaza pour la liberté de la presse, qui recense donc toutes les violations commises à la fois par Israël, mais à la fois aussi par le gouvernement palestinien. Parce que des deux côtés, les choses ne vont pas vraiment, vraiment très bien. Donc l'ONG nous dit « En 2015 ont eu lieu les violations israéliennes les plus nombreuses et les plus violentes contre les journalistes et les médias en Palestine. Notamment au cours du dernier trimestre qui a été marqué par les heurts entre soldats et colons israéliens et manifestants palestiniens. 255 journalistes ont été blessés, dont plusieurs par balles. 96 ont été interpellés ou détenus. En fait, régulièrement, lorsqu'il y a des manifestations ou des heurts, les soldats israéliens visent les journalistes en leur lançant des grenades assourdissantes ou des grenades lacrymogènes. Les soldats s'en prennent aux journalistes, leur prennent bien entendu leur matériel. Bon. Le syndicat des journalistes palestiniens a récemment protesté auprès des Israéliens, auprès des autorités. Alors à la fois, ce qui est très intéressant, je trouve, auprès des autorités israéliennes, de même qu'auprès des autorités palestiniennes. Parce qu'ils ils dénoncent le fait que les forces de sécurité palestiniennes empêchent les reporters de couvrir les manifestations, notamment une manifestation de Palestiniens qui se dirigeait vers un checkpoint israélien. Et récemment, ils disent que ce qui se passe, c'est que parfois, il y a une espèce d'autocensure qui se crée chez les journalistes palestiniens, parce qu'à chaque fois qu'ils se font arrêter, bon, les choses sont très compliquées. Et récemment, un journaliste gazaoui, donc de la bande de Gaza, a annoncé qu'il allait rendre ses activités moins virulentes à l'égard du Hamas, qui dirige la bande de Gaza, après avoir subi des tortures lors de sa détention pendant plus d'une semaine par le mouvement islamiste pour justement, soi-disant, atteinte à la sécurité du gouvernement. Donc voilà, de part et d'autre, en fait, il y a des exactions. Les journalistes ne peuvent pas faire leur travail. Et le centre de Gaza, donc pour la liberté de la presse, rappelle particulièrement la situation du journaliste Mohamed Al-Kik, qui est dans un état critique après 55 jours d'une grève de la faim, qu'il poursuit pour dénoncer son incarcération par Israël, qui est un régime extrajudiciaire et qui est une mesure qui permet l'emprisonnement pour 6 mois renouvelables, sans inculpation ni procès. Et récemment, RSF Reporters sans frontières réclame donc aux autorités, aussi bien israéliennes que gazaouies, de relâcher les journalistes, et l'ONG s'inquiète des conditions de détention et pense que toutes ces manifestations recule encore et encore, voilà, l'arrivée possible et la mise en place d'une paix dans cet État qui en aurait bien, bien besoin. Et voilà, donc pour Israël, les choses n'avancent pas vraiment dans le bon sens. Hein. On a l'impression qu'un coup ça avance, un coup ça recule. Et la liberté de la presse est quand même menacée. Et quand les journalistes ne peuvent plus faire leur travail, on ne peut que s'inquiéter.
Déplorer.
Voilà, une petite pause dans les nouvelles d'Amnesty. Do 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 do
Amnesty International sur MFM+,
bonjour,
dernière partie
bonjour.
De notre émission, voilà, une nouvelle intéressante et positive, cette fois au Maroc, où des professionnels prennent position pour mettre fin à la violence et à la discrimination à l'égard des femmes. Et Dieu sait si au Maroc, les droits des femmes sont malmenés. Hein. Alors, les formations aux droits humains pour les professionnels ont permis aux femmes de faire face aux violences liées au genre et à la discrimination. Amnesty s'est entretenue avec l'une de ses professionnelles pour comprendre comment l'éducation aux droits humains favorise le changement au-delà des séances de formation. Comment soutenir les militants des droits des femmes dans un pays classé parmi les 10 pires pays en termes d'inégalité de genre et que se passe-t-il une fois que le formateur a été formé ? Dans la région de Meknès, au Maroc, 30 professionnels et notamment des membres de groupes de défense des droits des femmes, des militants et des avocats ont participé à une formation aux droits humains pour faire face aux violences liées au genre et à la discrimination à l'égard des femmes. Pendant 6 jours, les participants ont reçu une formation et des conseils juridiques permettant de trouver des solutions pour aider les femmes risquant d'être victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Ce type de formation de formateurs a un impact de plus en plus important et a mené à une augmentation du nombre de projets d'éducation destinés à d'autres femmes dans la région. Pour Touria Bouadibid, coordinatrice du programme d'éducation aux droits humains d'Amnesty International Maroc, organisant les formations, travailler directement avec les professionnels est un facteur essentiel pour faire face à une situation qui reste critique pour de nombreuses femmes. En effet, les violences liées au genre restent très courantes dans la société, malgré le fait que la Constitution garantisse l'égalité entre les hommes et les femmes. Selon un sondage national effectué en 2011, près de 63% des femmes marocaines ont déclaré avoir été victimes d'un acte de violence dans les 12 mois précédents, c'est-à-dire près des 2/3.
Oui.
Et afin d'aider les professionnels dans leur travail, la formation fournie par Amnesty Maroc est centrée sur les connaissances juridiques des normes internationales afin de permettre une meilleure compréhension de la loi liée aux droits des femmes. Les professionnels que nous formons seront ensuite en mesure de travailler en utilisant une approche basée sur les droits. Voilà ce qu'a déclaré Touria.
Très bien. Et alors justement, c'est parmi ces professionnels, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Amina Azatraoui, qui, après avoir été formée, elle fait une formation auprès des étudiants. Hein, parce qu'on sait bien que l'éducation, ça commence en amont. Donc elle apprend à des étudiants du lycée Abderrahman Ben Zidane à reconnaître des actes de discrimination à travers des activités qui, en fait, recréent des situations de la vie actuelle. Donc, elle, ce qu'elle espère, c'est qu'avec ces formations, avec ces jeunes étudiants, c'est des étudiants qui ont entre 15 et 20 ans, elle va pouvoir un peu changer les mentalités des hommes et des femmes et la perception dans la société de l'infériorité de la femme. Elle compte beaucoup sur cette formation. Et elle finit en nous disant « Les femmes marocaines ont le droit de vivre une vie décente, comme les hommes, sans être victimes d'abus, de viols ou de violences. Nous devons travailler dans ce sens pour lutter contre cela et changer cette réalité. Et en faisant cela, nous pouvons assurer dignité et liberté pour les femmes et faire de notre société une société équilibrée. » Effectivement, on peut espérer que grâce à ces formations, eh bien, les mentalités évoluent
oui,
au Maroc.
Surtout en touchant cette catégorie d'âge, hein,
d'âge,
15 à 20
voilà,
ans,
qui sont l'avenir quand même
pas complètement
du Maroc.
Déformés encore par le machisme ambiant. Hein.
Tout à fait. Donc voilà des initiatives très intéressantes et des formations que fait Amnesty qui vont sûrement permettre que les idées progressent.
Ben, espérons-le en tout cas. Hein, voilà
Jean-Marie. Et puis pour finir cette cette émission. Donc, un petit rappel pour le loto d'Amnesty.
Oui, alors comme chaque année, les auditeurs sont peut-être au courant, nous organisons un loto donc, qui permet au groupe de Montpellier de fonctionner, de payer sa cotisation pour le Amnesty Paris, hein, donc le national. Ça ne va pas dans notre poche, hein, bien sûr, mais on peut aussi s'acheter du matériel. Et donc, ce loto aura lieu ce samedi 6 février. Samedi 6 février à Castelnau-le-Lez à 20h30. Alors non pas comme d'habitude à la salle municipale, mais à la halle Jean Moulin qui se trouve à côté de l'école Jean Moulin et du centre
de
loisirs municipal. Voilà, donc vous regardez sur Mappy ou sur Via Michelin, vous trouverez donc 20h30. On vous rappelle également qu'il y a une bonne vingtaine de kines, que les lots valent entre 80 et 100 euros. Je veux dire, les gens qui gagnent, ils sont contents.
En général,
oui. C'est pas fichu d'eux, voilà. Il y aura également une kine pour les enfants, à signaler, une ou deux kines pour les enfants. Et puis à l'entracte, il y aura un entracte avec une tombola, donc vous pourrez aussi acheter des billets pour espérer gagner d'autres lots.
Dont des gros lots, le vélo, du matériel IFI, des tas de choses. Il y aura aussi une buvette, donc vous pourrez restaurer et manger,
voilà,
du salé, du sucré, du chaud, du froid.
Très bonne ambiance sans doute, comme d'habitude. Donc on vous attend nombreux, on vous espère en tout cas. Donc on vous rappelle que c'est ce samedi 6 février à 20h30 à la halle Jean Moulin à Castelnau-le-Lez.
Venez voilà. Nombreux. Voilà,
merci,
c'est fini pour Amnesty.
À tous.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.